Guylaine Marshall. Elle était riche, elle était veuve, elle vivait seule dans sa splendide villa de Mougins sur la Côte d'Azur. Les gendarmes l'ont retrouvée un soir de juin, poignardée dans sa cave, une cave dont la porte avait été bloquée de l'intérieur par un lit mis en travers. Lorsque les gendarmes ont pénétré dans le local, ils ont découvert le corps de Guylaine Marshall gisant au sol, mais surtout une incroyable inscription sur la porte, écrite du sang de la victime. Omar m'a tué. Malgré la faute d'orthographe, c'est mieux qu'un indice, c'est la preuve quasi limpide qui désigne Omar, le jardinier de Guylaine Marshall, qui est immédiatement arrêté et inculpé d'assassinat.
L'affaire Omar Radad est l'une des plus grandes affaires criminelles des années 90, largement médiatisée. Elle confrontait une victime fortunée à son jardinier marocain ne sachant ni lire ni écrire le français. Un coupable idéal qui a toujours clamé son innocence et non sans raison vu le déroulement de l'enquête. Mais Omar Radad a été condamné à 18 ans de prison puis finalement gracié par Jacques Chirac après 7 années d'emprisonnement. Alors en liberté, il n'a jamais cessé de se battre pour être déclaré innocent. L'acteur Roche Dizem s'est emparé de l'histoire du simple jardinier et a tourné Omar m'a tué avec dans le rôle d'Omar Radad Sami Bouajila. Une fiction documentée qui laisse encore une fois planer le doute sur la culpabilité de Radad. S'appuyant évidemment sur les éléments de l'enquête, Roche Dizem nous fait suivre deux parcours. Tout d'abord celui d'Omar Radad, inspiré de son livre « Pourquoi moi ?», un Omar Radad qui se retrouve les trois quarts du film en prison. Puis le film laisse entrevoir un autre personnage qui serait un peu le point de vue du réalisateur, inspiré de l'écrivain Jean-Marie Rouard qui avait mené une contre-enquête à l'époque. Si les scènes avec Omar Radad, campé par un Sami Bouajila qui taquine les Césars, sont de nature dramatique, les séquences avec l'écrivain interprétée par Denis Podalydès, elles sont beaucoup plus légères, bien que riches d'enseignements sur cette enquête. Une affaire dont on n'a pas fini de parler, puisque la chancellerie aurait décidé, à la faveur de cette actualité, de rouvrir le dossier pour comparer les traces ADN retrouvées sur le lieu du crime, qui ne sont pas celles d'Omar Radad, avec le fichier national des empreintes. L'acteur Sami Bouajila et Roche Dizem, le réalisateur, sont venus à Montpellier présenter le film, tourné en partie dans la région.
Moi, à la fin, j'ai un film de 2h15. Mais en allant à l'essentiel, effectivement, je me retrouve avec un film d'une heure et demie et ça me paraissait plus juste.
Le verdict vient de tomber. La cour s'est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Radad.
Il y a le temps présent du film qui est 94. Et puis, effectivement, on filme pas de la même manière Denis Podalydès et Sami Bouajila en fonction de leur personnage. Et Sami, c'est vrai que j'avais envie de cette caméra portée et surtout d'être toujours très très proche de lui. Et j'avais envie de représenter la fragilité, la fébrilité, et puis surtout l'oppression. Et il y a la caméra qui est proche de lui, et moi également, j'ai passé pas mal de séquences à ses pieds, à lui dire « t'inquiète, c'est un milieu ». Et c'est intéressant de déstabiliser un acteur, parce qu'il a une telle maîtrise à un moment de son personnage et de ce qu'il a à faire, que de bousculer ça, il y a des moments pour la caméra qui sont intéressants, parce qu'on voit quelque chose. Et effectivement, avec Denis, d'abord... L'image elle est plus épurée, la caméra est posée, plus fluide, plus rythmée aussi. Voilà, et puis je prends plus d'air également, parce que c'est des personnages qui imposent ça. Le personnage de Denis, c'est un écrivain en mal d'inspiration et qui trouve en Omar un livre potentiellement intéressant. Et voilà, il y a une volonté de faire un livre derrière. Et j'ai un peu cette même démarche. C'est avant tout aussi un sujet intéressant pour faire un film. Donc, si vous voulez, j'essaie d'y mettre un peu d'honnêteté à travers ça, parce que c'est vrai que je me présente pas en justicier ou en donneur de leçons ou en dénonciateur de la justice, etc. En parlant, effectivement, d'une affaire qui me paraît, moi, être une injustice. Mais on est quand même dans un contexte à vocation commerciale. Voilà, pour dire le mot tel qu'il est. Et il est intéressant de faire ce parallèle. C'est pour ça que ce personnage, il fait l'enquête, mais il a besoin de son confort, de son hôtel, etc. Voilà, et le cinéma, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on fait des films qui parlent de ça, mais on est logé dans des beaux hôtels et on mange dans les meilleures cantines. Et c'était... oui, j'avais envie aussi de montrer cette réalité-là, Je ne sais pas si le message a été bien perçu à travers ce personnage, mais voilà, il faut quand même remettre les choses à leur juste valeur. Je crois qu'il y a des gens qui font un travail de terrain, de longue haleine, en plus, dont on ne parlera jamais. Et c'est plutôt à eux qu'il faut rendre hommage. Nous, on a quand même aussi cette possibilité-là de faire des films qui sont financés par des grands groupes, notamment par le Conseil régional. Voilà, on est aidé, on est soutenu. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui font sans doute beaucoup plus de travail et qui mettent beaucoup plus d'énergie que nous et dont on ne parlera jamais.
Votre enquête doit nous servir. J'ai besoin d'éléments nouveaux pour monter un dossier de demande en révision.
Une victime cultivée et en pleine agonie utilise ses dernières forces à faire une invraisemblable faute d'orthographe.
Qu'est-ce qui lui prend? Il est passé du Figaro littéraire à l'Humanité.
9 orifices de 2 cm, plus les 3 coups de chevron sur le crâne.
Je l'ai vécu comme je vis aujourd'hui l'affaire Strauss-Kahn. Ouais, donc, c'est une affaire qui prend beaucoup de place dans les médias, mais je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti parce que je ne connais pas assez bien l'affaire. Donc je me contente des gros titres dans les journaux et j'ai pas d'empathie particulière pour Omar Haddad, si ce n'est que je trouve cette histoire tout à fait étonnante et dans la conception du crime, avec cette inscription dont on a tant parlé, dont on parle encore, et puis l'évolution de l'instruction, le procès, et puis cette grâce présidentielle. Voilà, ça c'est les Mais j'ai découvert ensuite toutes les incohérences et la fragilité du dossier en m'intéressant à l'affaire en elle-même. Parce qu'au départ, la seule volonté que j'avais, c'était de raconter cette histoire à travers le personnage d'Omar. Donc garder l'aspect humain de l'histoire. Mais le scénario a pris une autre dimension dans la mesure où on a vite compris qu'on ne pouvait pas occulter l'aspect judiciaire de l'affaire et de mettre en évidence ces fragilités dont je vous ai parlé et qu'on voit dans le film. D'où l'arrivée du personnage de Vaugrenard, qui est, comme vous le savez, directement inspiré de Jean-Marie Roire, et qui est un regroupement de plusieurs enquêtes à l'intérieur d'un seul personnage. Il est évident que Jean-Marie Roire n'a pas fait tout ce que fait Denis dans le film. Enfin, il a fait une enquête, mais je me suis servi aussi du bouquin de Roger-Marc Moreau, le détective notamment, qui est lui... Par exemple, celui qui est allé en Tunisie rencontrer El Ouaher pour avoir ce témoignage.
Vous donneriez votre main à couper comme arrêt innocent, tout de suite?
Ma conviction, elle est celle du film, c'est-à-dire que devant autant d'incohérences, il est difficile de condamner un présumé comme Omar Haddad avec ce dossier-là, c'est évident. Ma conviction, c'est que, en tout cas, rien dans le dossier ne me permet de penser qu'il est le coupable.
C'est un travail d'assassin, pas de jardinier marocain.
Connaissez-vous ce proverbe arabe? Qui ne sait ni lire ni écrire doit cacher sa tête dans un trou.
Dès le départ, quand Rushdie me propose, enfin lance le feu vert en tous les cas sur ce tournage, moi je pars en préparation. Quand il lance le feu vert, quand on officialise le truc, la production organise un dîner avec Omar Haddad, son éditeur, Rushdie, Rachid et moi-même. C'était donc la première rencontre que j'ai eue avec Omar, où là, tout était ouvert, hein, c'était non pas gratuit, mais j'avais besoin de l'entendre, j'avais besoin de le voir, il n'y avait aucune préméditation de ma part, si ce n'est inconsciemment, beaucoup de curiosité, donc j'étais très à l'écoute de rencontrer la personne. Ensuite, instinctivement, j'ai eu hâte d'essayer de casser le mythe et toute l'histoire qui entoure l'affaire Omar Haddad, toutes celles qu'on connaît, qui occupent notre esprit, de sorte que je puisse me sentir libre, moi, d'aller vers le Omar que je vais concevoir, enfin proposer à Rushdie, en tous les cas, quelque chose de frais et pas d'écrasé par un truc qui nous tuerait d'avance.
Il m'a demandé s'il pouvait assister à une journée de tournage. Et la première fois qu'il est venu, c'était dans son ancien appartement, là où on tourne la perquisition avec les gendarmes. Il se trouvait que c'était son appartement de l'époque, donc qui remonte à il y a 20 ans, et surtout il n'était jamais retourné depuis son arrestation. Donc il est venu, mais il est resté 30 secondes, et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont forcément remontées dans les souvenirs lointains, et il est reparti. Il est reparti, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu supporter en tout cas. Et la vision de Samy en Omar, les gendarmes et son appartement surtout. Il est parti, puis il m'a laissé un message en me disant je reviendrai, mais là c'était pas le moment. Et effectivement, il est revenu une deuxième fois à Montpellier, Et là, on tournait la séquence du verdict, avec sa femme qui part en syncope, etc. Donc, encore une fois, là, il est sorti du... Et je lui ai dit, vous savez, Omar, je crois qu'il n'y a pas de moment idéal pour venir assister au tournage en ce qui vous concerne. Voilà, je crois qu'il a... Ouais.
La cour condamne Omar Radad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle.
À ma place, tu laisserais comme ça en prison?
Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.
Monsieur Radad est sans doute un des seuls protagonistes de cette affaire qui a envie qu'on en parle encore aujourd'hui. Parce qu'il se trouve qu'on m'a... demander de me taire par rapport à ce film et surtout de ne pas le faire. De la famille de la victime. Des pressions, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, des lettres de menaces de procédure, si je faisais le film dans un premier temps. Et puis la dernière en date, c'était assez drôle d'ailleurs, parce que la dernière en date stipulait, j'espère que dans votre film, on sait qu'il est condamné à 18 ans. J'espère que dans votre film, on sait que son pourvoi en cassation a été conclu sur un rejet. Ce qui est évident, c'est-à-dire que je crois que... Parce que, en fait, si vous voyez ce qui m'a motivé, c'est que les menaces sont arrivées avant même que j'écrive une ligne. Quand je dis les menaces, on parle de menaces procédurières, hein, pas de menaces physiques. Donc ça m'a motivé, si vous voulez, parce que personne ne savait ce que j'allais écrire. Mais en même temps, ça m'a motivé sur le fait de donner une version objective, même si on est en empathie sur le personnage, j'en suis conscient parce que c'est avec lui qu'on suit cette affaire. Mais vous le savez, tous les éléments et tous les faits qui sont dans le film sont uniquement les faits avérés parce que, à travers cette histoire, j'ai eu autant de témoignages que de théories. Vous les connaissez, le sosie, la secte du temple solaire, l'amant, enfin voilà. Je les ai totalement éludés et je me suis focalisé uniquement sur les faits avérés que, effectivement, j'ai pu suivre grâce au dossier.
J'espère que votre livre va arranger les choses.
Je ne peux rien vous promettre, Latifa.
L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui d'Omar Radad.
فرصة استقبلتنا في بلادها. الحكم ديالها راه ما يظلمش الإنسان اللي ما دار شيء.
Moi, je ne donne pas de faux espoirs. Je fais ce film avec toute l'honnêteté, en tout cas, qui m'incombe. Mais surtout, ce qui est important, c'est effectivement de comprendre qu'à travers cette histoire, on sent bien que ce n'est pas totalement terminé.
On sait qu'il s'agit du sang de la victime, mais les experts viennent de déceler dans les empreintes de l'ADN masculin.
Comme vous le savez, il y a toujours cette empreinte ADN qui n'a toujours pas trouvé de propriétaire. Et effectivement, il y a une quinzaine de jours maintenant, ou peut-être un peu plus, maintenant 3 semaines, la chancellerie a accepté de faire cette comparaison ADN. Alors, est-ce que c'est lié au film? C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, cette demande a été faite par M. Radad en 2002. Donc, ça fait 9 ans qu'il cherche à l'obtenir. Et la démarche a été déclenchée il y a 3 semaines à peu près. Donc, en tout cas, je pense, en toute modestie, qu'un film peut faire accélérer les choses. Mon ambition première, c'est de faire une fiction. Vraiment. Sinon, je fais un documentaire et puis effectivement, je vais le montrer à qui de droit. Mais la volonté première, c'est de faire une fiction. Un film qui soit aussi, même si c'est un film qui prête à réfléchir, une fiction d'une heure et demie qui soit visible dans les salles de cinéma et à travers lequel le spectateur a le sentiment d'avoir vu, du cinéma. Grâce notamment aux interprétations des acteurs et de la mise en scène et de toutes ces choses-là qui sont nécessaires au bon déroulement d'un film. Après, tout ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Pensez bien que quand la chancellerie a décidé de faire cette démarche auprès du FNEG, le fichier national des empreintes génétiques, je suis le premier surpris. Ça me fait plaisir, mais ça me met aussi en colère, parce que c'est pas le rôle d'un film, c'est le rôle de la justice de faire cette démarche-là. Bon, écoutez, voilà. Si on se pose des questions, on n'a pas les réponses.
Pas de sang sur l'accusé. Pas de preuve qu'il ait pénétré dans la cave et volé l'argent. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur rien.
Vous écoutiez Roche Dizem et Samy Bouajila à l'occasion de la sortie sur les écrans le 22 juin du film Omar m'a tué. Les documents sonores provenaient de l'INA et de la bande-annonce du film.